Bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
La rétrospective de l'actualité de la semaine est probablement que l'information la plus essentielle de la semaine a été celle-ci. L'espérance de vie a reculé en France en 2015, a-t-on appris mardi dernier d'un rapport de l'INSEE. L'espérance de vie en 2015 connaît une baisse de 0,4 ans pour les femmes, 0,3 pour les hommes par rapport à 2014. En 2015, une femme a une espérance de vie de 85 ans et un homme de 78,9 ans, s'ils sont nés évidemment en 2015. Cette baisse de l'espérance de vie, c'est une première en France depuis 1969, directement liée à la surmortalité des personnes âgées en 2015 à cause de la grippe et de la canicule. Signe inquiétant s'il en est, puisqu'une espérance de vie en déclin est habituellement le fait d'une société en déclin. Autre actualité marquante de la semaine écoulée, le plan d'urgence pour l'emploi dévoilé par François Hollande lundi. Sa mesure phare, une prime de 2000 euros par an pendant 2 ans pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Alors ça, effectivement, c'est la mesure phare, celle qui a fait le plus parler. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, estime qu'on pourrait créer avec cette mesure 50 000 emplois dans les PME. Le chef de l'État qui a aussi et encore parlé d'assouplir le code du travail, le contrat de travail, le temps de travail. Et le ministre de l'économie est donc allé en enfonçant le clou vendredi. Le plan pour l'emploi dévoilé par le chef de l'État, a dit Emmanuel Macron, signe de facto la fin des 35 heures. Fin de citation. Ça risque encore de faire des remous à gauche. Autre actualité essentielle, le terrorisme. L'état d'urgence va être prolongé de 3 mois. C'est ce qu'a dit François Hollande au secrétaire général du Parti communiste français, Pierre Laurent. L'état d'urgence sera prolongé le temps qu'il faudra, avait dit quelques heures auparavant Manuel Valls. Tant que la menace est là, il faut que tous les moyens soient mis en œuvre. L'état d'urgence, normalement, doit prendre fin le 26 février. Il avait été décrété après les attentats du 13 novembre dernier. Où les terroristes, d'ailleurs, frapperont-ils la prochaine fois? France 3 a révélé un document confidentiel du renseignement militaire français qui liste les sites ciblés en priorité par les djihadistes. Le quartier d'affaires de la Défense à Paris, risque d'attaque par drone ou par avion piégé. Le pont de Saint-Nazaire, la zone aéroportuaire de Toulouse, le port de Marseille-Fos, le site d'hydrocarbures de Lyon-Sud, le Parlement européen de Strasbourg ou encore le musée européen de Lille. Et malgré le terrorisme, la France est toujours numéro 1 du tourisme mondial. L'an dernier, première destination touristique mondiale, la France, une fois encore, devant les États-Unis, l'Espagne, la Chine. Le nombre de voyageurs pour tourisme, d'ailleurs, a augmenté dans le monde l'an dernier, 50 millions de plus par rapport à 2014. Et puis, malgré le terrorisme, il faut bien le dire que le taux de change a poussé les Américains à venir nous rendre visite, car la dépréciation de l'euro face au dollar a allégé la facture des touristes américains. La facture carburant, transport aérien aussi baissé avec les prix du pétrole qui sont en baisse. Et puis l'Afrique du Nord ayant connu une baisse de fréquentation à cause du risque d'attentat, eh bien les touristes se sont reportés en Europe et en particulier en France.
La météo de votre région sur RVE.
Avant de retrouver le sport, eh bien, on fait tout sur RVE et on est même polyvalent puisque je vais maintenant faire la météo avec un ciel qui va rester nuageux tout au long de la journée, des risques d'averses dans la matinée, des températures de 3 à 4 degrés, 8 degrés dans l'après-midi.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Plus que jamais, notre émission va justifier donc son appellation Tribune Sport, émission omnisport, puisque après l'athlétisme la semaine dernière, eh bien ce matin, on va parler de fléchettes. Et oui, c'est un véritable sport avec des champions et des championnes de France ici même dans nos studios. Et puis on aura naturellement aussi un petit point sur l'épreuve du Raid 28, qui est le gros événement de ce week-end dans notre région. Les responsables viendront faire un petit point sur la nuit du Raid 28 et nous donner donc les positions des concurrents. Alors, ravi en tout cas d'accueillir nos champions et championnes, ils sont de Rambouillet. On va commencer, honneur aux filles, avec Pauline Berthaud. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Championne de France, donc de fléchettes.
En équipe, tout à fait.
Ouais, ça va. Ça... Pourquoi les fléchettes?
Pourquoi les fléchettes? À la base, on est une bande de copains.
Ça commence souvent comme ça.
Ça commence souvent comme ça. Puis dans le bar où on va s'entraîner, en fait, où à la base on allait juste boire des verres, y a une cible de fléchettes et puis on s'est progressivement pris au jeu jusqu'à ce que les patrons nous proposent de participer à la ligue de fléchettes, puisqu'il y a deux ligues qui existent en France. Et voilà, finalement on s'est dit pourquoi pas, on va se lancer là-dedans. Et puis
ils nous ont un peu forcé quand même, hein.
c'est eux qui nous ont forcé à
nous inscrire. Et puis coup de chance, on a eu cette chance de pouvoir être au championnat de France donc en juin 2014 et puis de remporter un titre en L2 qui est un des plus bas niveaux mais qui est tout aussi honorable.
Très bien, donc je salue Alexandre qui est aussi partie de l'équipe, un peu le capitaine en quelque sorte, Alexandre, donc celui qui mène un peu l'équipe.
Capitaine sur cette année-là, l'année d'après aussi, et puis après on a Alexandre changé de capitaine, moins, voilà. Tout à fait. Et voilà, capitaine, président de l'association aussi, parce qu'on a monté une association de fléchettes pour financer un petit peu nos déplacements, les inscriptions, voilà, tout ce qui va à côté. Donc voilà.
Et puis il vient des USA, vous allez voir l'accent merveilleux radiophoniquement, c'est super. C'est Andrew Tischler. Bonjour Andrew, ça va?
Bonjour, très bien, oui.
Alors les fléchettes aux US, c'est un sport important?
Ah oui, c'est assez grand. On le trouve dans quasiment tous les bars. Bon, ouais. Pas tous, mais ouais. Beaucoup, oui. Chez moi, d'un côté du sud, malgré son nom, au nord des États-Unis, dans le central. Bon, il fait froid l'hiver, donc il y en a beaucoup qui, ouais, ils font des sports ou bon, les jeux, les sports à l'intérieur, donc soit les billards ou les fléchettes. Donc ouais, j'ai commencé là-bas avec une équipe, et puis je suis arrivé ici en France il y a 8 ans et bon, j'ai continué à jouer et j'ai vu qu'il y avait 2-3 autres qui aimaient bien aussi. Donc, on a décidé, oui, comme Pauline a dit, on a décidé de faire notre équipe.
Très bien, donc on va naturellement essayer de bien découvrir ce sport de l'intérieur, votre association aussi. Alors, vous l'avez dit, Alexandre, ça commence par le jeu. C'est un peu comme le ping-pong hein, qui devient tennis de table quand on fait de la compétition, ou le badminton qu'on fait sur la plage et puis qui vient aussi de la compétition ensuite. Bah, vous, c'est pareil. Les fléchettes, c'était au départ un divertissement, un loisir qui devient sport.
Oui, tout à fait. Comme disait Pauline, on se retrouvait pour aller boire 2-3 coups et puis lancer des fléchettes, voilà, pour s'amuser sans prétention, voilà, juste pour passer un bon moment, rigoler. Et puis on s'est assez prêté au jeu, voilà, on a eu les patrons de bar aussi qui nous ont poussé un peu, qui nous ont inscrits au championnat, donc à la ligue. Et puis voilà, donc on s'entraîne régulièrement au polo, parce qu'on s'entraîne au polo pub, où ils ont deux machines électroniques en ligne.
Oui, donc on va rappeler que c'est situé place Marie-Roux, hein, juste en face de la mairie. Hein,
exactement. Voilà. Exactement. Et donc on s'y retrouve assez régulièrement, peut-être une à deux fois par semaine pour déjà se retrouver parce qu'on est des amis à la base, et puis s'entraîner, passer un bon moment. Voilà quoi.
Donc il y a beaucoup de clubs dans le coin, beaucoup de clubs dans les Yvelines. Je crois me souvenir il y a très longtemps avoir fait une émission avec une section sur Ablis. Est-ce qu'il y a d'autres clubs donc dans les villes et villages avoisinants?
Alors c'est
d'autres clubs de fléchettes.
Pas considérés comme des clubs de fléchettes, mais plutôt des lieux de pratique de fléchettes.
Oui. Donc ça se passe
de loisirs.
Oui.
Et ça se passe généralement dans les bars parce que c'est un lieu qui permet d'accueillir des machines parce que ça prend quand même un petit peu de place. Qu'il faut un peu de. Voilà, qu'il faut
un peu. Ouais, c'est un peu comme le bowling ou bien le billard, quoi, c'est pareil.
Voilà.
Ça devient loisir, et là aussi, ça peut devenir compétition.
Exactement.
C'est un peu comme tous les sports ou tous les jeux, ouais, ça commence comme un loisir, et puis on devient de plus en plus sérieux, on commence à s'entraîner de plus en plus, on voit qu'il y a des compétitions qui arrivent, donc, avant le championnat de France, je crois que un mois avant, j'ai des entraînements entre 3 et 5 heures.
Oui, mais on va.
Par jour, c'était assez intense, mais...
Donc, on commence comme ça, comme copain-copine, et ensuite, on décide de se structurer, ça se passe comment?
Ça se passe bien.
Non, mais je veux dire, il y a des démarches à faire, il faut créer un club, voilà.
C'est un peu particulier.
Il faut recruter, parce que je suppose que quand on fait des championnats, il y a aussi un turnover.
On a ce qu'on appelle des opérateurs qui s'occupent justement de gérer des bars et d'organiser un petit championnat inter-bar qui permet de se qualifier justement pour le championnat de France. Donc c'est un championnat qui dure de octobre jusqu'à janvier. On rencontre 6 ou 7 équipes, donc c'est des équipes qui sont à Chartres, à Châteaudun. Donc voilà, ça reste quand même dans le coin. On se déplace une fois chez eux, ils viennent une fois chez nous, donc on passe aussi, c'est l'occasion de passer un très très bon moment avec d'autres joueurs d'autres villes.
Ouais, c'est vrai, on a rencontré des gens très sympas.
Ouais. Et il y a toujours cet esprit de convivialité, de partage, de s'amuser, de rigoler, de jouer la compétition, mais pas forcément de se prendre au sérieux aussi, et puis de passer un super bon moment pendant 2 heures, et puis après de se retrouver donc, dans différentes autres compétitions, laisser les week-ends, et puis après de se retrouver au championnat de France tous les ans en juin. Donc c'est,
Alors c'est The Dark Knight, c'est ça le nom du club?
Tout à fait, ouais. Le nom de l'équipe.
Ouais, ouais. Pourquoi? Comment ça arrive ce nom? Une inspiration, non?
Bah, on cherche un nom d'équipe, je crois que c'était un truc sur Batman, The Dark, Dark Knight. Ouais. Donc bon, on s'est dit, bon, ce serait rigolo de faire ça, donc on a pris le nom de Dark Knight.
Les chevaliers de la fléchette.
Voilà,
ouais, c'est ça, chevaliers de la fléchette. Ouais. C'est ça. Oui, alors on commence à se structurer, donc on participe à des championnats. Vous êtes combien au total dans votre équipe?
Là, actuellement, on est 5.
5,
oui,
d'accord.
On est 5. Ouais. Avec une façon.
Oui. Ouais. Et une compétition, ça se passe comment? C'est des compétitions par équipe. Alors, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne.
Bon, il y a des équipes. Il y a des tournois individuels où c'est un contre un. C'est des doublettes. Mmh. Et des équipes. Souvent, c'est 4 contre 4. Et donc.
C'est le format de jeu que nous on pratique, en tout cas. C'est
d'accord, oui. Voilà. Oui, parce que dans votre sport, c'est des questions qu'on allait poser, il y a des compétitions aussi individuelles.
Tout à fait,
bien sûr.
On peut s'inscrire en compétition. Donc, j'ai compris aussi en duo, en triplette aussi.
Non, il n'y a pas ce format de jeu.
Non, il n'y a pas de format de jeu.
Non, à Las Vegas, il y avait le triplette, mais on n'a pas participé à cette...
D'accord. Donc, vous, c'est un format de jeu de 4. 4, d'accord. Alors, comment ça se passe? Qui passe le premier? Qui passe le deuxième? Comment se fait l'ordre de passage? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est au choix?
Ça se passe comment?
Ça peut être stratégique, oui. Bon, ça dépend de combien de manches on joue aussi. Souvent en ligue, on joue 15 manches.
15 manches 15
par match.
Par match. Combien de fléchettes tirées par manche?
Bon.
Vous avez le droit à un certain nombre de fléchettes tirées?
Ça se compte en tours, sachant que sur chaque tour, tu as le droit de lancer 3 fléchettes.
D'accord, voilà, 3 fléchettes par tour.
3 fléchettes par tour. Il y a un format de jeu qui s'appelle le 501, qui est un standard, on va dire, dans les fléchettes. Le but du jeu, c'est de partir avec 501 points et d'arriver exactement à zéro. Voilà, et on a une quinzaine de tours pour réaliser... cet objectif-là. Puis il y a un autre format de jeu aussi, donc on alterne. Il y a un autre format de jeu qui s'appelle le cricket, qui est un peu plus stratégique, un peu plus fin dans le jeu, où il faut viser des nombres, le 20, le 19, le 18, jusqu'à 15. Et il y a tout un jeu de stratégie, un peu un jeu d'échecs, où on vient bloquer l'adversaire. Les règles sont un petit peu... voilà, il faut pratiquer à expliquer comme ça, la radio, c'est un peu...
Il faut venir jouer avec nous, hein.
Ah on invite
tout le monde d'ailleurs à venir voir au polo et venir jouer avec nous.
Hein. Donc 3 fléchettes par tour sur 15, donc il y a un côté stratégique. Qui commence le premier en général?
Souvent c'est soit Alex, soit moi.
Oui.
Oui.
Ouais. Pour assommer déjà l'adversaire psychologiquement.
Pour se mettre en confiance.
Se mettre en confiance, oui. Je crois que c'est exactement ça. C'est souvent ça, juste pour. C'est un peu ça. Ouais.
Et qui termine?
Il termine.
Ça dépend.
Parce que pendant le match, quand on joue les 15 manches, tout le monde joue avec tout le monde. C'est-à-dire, on a 4 joueurs, donc on va souvent jouer 2 contre 2. Donc peut-être c'est moi et Pauline qui commencent, Alex qui commencent.
Ouais.
Et puis le prochain manche, c'est peut-être Pauline et Alex, et puis notre coéquipier, Charles.
Ça se décide en cours de match, quoi. C'est ce qu'on appelle du coaching, quoi.
Oui.
Hein, en fonction des événements. Et Pauline, souvent en milieu? Non, sur la fin, ça arrive aussi?
Oui, en fait, il y a aussi une grosse part dans quel état je me sens aujourd'hui.
Eh oui, bah oui.
Parce qu'on n'est pas forcément performant tous les jours.
Bah oui, c'est le coaching, c'est ouais, son instant, ouais, c'est ce qu'on dit. Hein.
Tout à fait. Mmh. Et c'est là aussi que c'est très intéressant de jouer avec des amis, parce qu'on a une facilité à échanger là-dessus, à pouvoir se mettre au point sur une stratégie, à avoir une certaine conscience aussi de notre niveau de performance du jour. Et il y a aussi, bien sûr, le niveau de l'équipe qui est en face.
Bien sûr.
Qui entre en ligne de compte. Mmh. Et la chance qu'on a eue, je pense, c'est de rencontrer très rapidement de très très bons joueurs qui nous ont donné énormément de clés de jeu, de très bons conseils, qui nous ont aussi beaucoup soutenus. Donc ça nous a pas mal formés. Donc il n'y a pas de règles vraiment préétablies. Par contre, c'est vrai que souvent, Alexandre et Andrew commencent parce que c'est les deux piliers de l'équipe. Donc voilà, ça permet de mettre en confiance tout le monde et effectivement d'assommer l'adversaire, parfois.
Voilà. C'est mixte, au fait, hein, votre sport. C'est-à-dire, c'est des équipes mixtes. Il n'y a pas, par sexe des compétitions. S'il y a des championnats hommes, filles,
ouais,
aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, en équipe, pour que l'équipe puisse jouer en catégorie mixte, il faut avoir au minimum 2 femmes dans l'équipe. Là, en l'occurrence, je suis toute seule, donc on joue dans la catégorie masculine. Par contre, au niveau individuel, il y a une catégorie féminine et uniquement féminine. Donc là, pour le coup, moi, je ne suis pas amenée à rencontrer mes coéquipiers en catégorie individuelle.
Donc, vous faites le championnat, hein, sur une quinzaine d'équipes et vous l'emportez, vous êtes champion, c'est ça ?
C'est ça.
Déjà, le département, la région, après, ça vous amène à faire le championnat de France.
C'est ça. En fait, la compétition pour nous en équipe s'était passée sur 2 jours. Donc, il y a une première journée, on va dire, de poule, qui permet un peu de... Ouais.
C'est le week-end, les matchs ?
Pour le championnat de France, c'était le week-end. Ouais. C'était un vendredi et samedi, de mémoire.
Oui, à Nantes, oui.
C'était à Nantes.
Où on a gagné, oui.
Et donc, il y a une première journée un peu de poule qui permet déjà un peu d'épurer et puis de mettre des équipes, malheureusement, sur le côté. Et puis, le lendemain, on attaque un peu dans le dur avec les tableaux qui mènent jusqu'à la finale, avec un système de double KO. Donc, en fait, il faut perdre 2 matchs dans la compétition pour sortir de la compétition. Et nous, on en a perdu, il me semble, un seul sur les 11 matchs qu'on a joués.
Ouais. Oui.
On en a perdu un seul.
On est assez content. Oui.
Okay. Ah bah oui, donc champion de France, c'est votre première année de championnat, non ?
C'était notre première année de championnat.
C'est incroyable quand même.
Alors pas notre première année de fléchette, hein, ça faisait quand même quelques temps, enfin quelques années qu'on pratiquait, mais en loisir. Et c'était notre première année de compétition. Donc c'est extraordinaire. Enfin, c'était on n'y croyait pas en fait.
Ah oui, on n'attendait pas vraiment d'aller aussi loin. C'est vrai, on a mis pas mal d'entraînement derrière, mais on a vu les équipes en face, on disait comment est-ce qu'on peut arriver à
faire. Et comme le disait Pauline, on a eu la chance de rencontrer, pendant la compétition annuelle, de rencontrer de très très bons joueurs et qui nous ont vraiment soutenus et conseillés, qui étaient vraiment présents et derrière nous pendant le championnat de France.
Oui.
Et ça, voilà, ils nous ont vraiment aidés et c'est peut-être grâce à eux aussi qu'on a gagné.
Ouais, alors, on peut imaginer quand même l'ambiance lors de ces matchs. Parce que, bon, sur Rambouillet, c'est le Polo Pub. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un établissement qui vient assister à vos matchs. Alors, c'est quoi ? Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'effervescence ? Au contraire, vous demandez plutôt le calme pour la concentration ?
Là, je pense que ça dépend de chacun. Il y en a qui ont besoin de... Alors, il y en a qui ont besoin de se sentir soutenus.
Voilà.
Oui, tout à fait. Et puis, il y en a qui ne supportent pas le moindre bruit. Donc, au polo, c'est, bon, encore une fois, un cadre un petit peu particulier. Je dirais qu'en compétition, c'est souvent assez bruyant. Bon, non seulement il y a énormément de cibles, énormément de joueurs, plus la musique. Bon, c'est une ambiance particulière.
Ah, vous avez la musique pendant les matchs ?
Tout à fait.
D'accord.
Par contre, quand on arrive dans les phases finales, là, c'est il y a un certain respect qui s'installe, je dirais, des gens qui regardent le match.
Dès les quarts de finale, en fait.
Ouais, dès les quarts de finale.
Ouais. Ouais. Beaucoup d'équipes sont sorties de la compétition, donc les joueurs qui ne jouent plus avec leur équipe viennent regarder leurs amis ou regarder les phases finales. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde derrière les machines qui regardait un peu ce qui se passait. Et puis,
donc, en quelque sorte, vous avez un club de supporters maintenant. Vous avez des fidèles qui viennent comme ça.
On a des amis qui viennent nous regarder, qui nous soutiennent, qui sont présents, qui parfois ils viennent avec nous au Chartres quand on joue nos matchs, donc c'est très agréable. Oui.
Alors j'ai cru savoir que vous avez même eu la visite de monsieur le maire.
Oui, monsieur Marc Robert est venu nous faire un petit coucou au polo il y a
Avant Las Vegas.
Avant Las Vegas, ouais. Mm-hmm.
C'est venu, vraiment sympa.
Ouais. Ouais. Mm-hmm. Nous souhaiter bonne chance et puis nous rencontrer. Et puis, il nous avait promis de revenir d'ailleurs après Las Vegas si on rapportait un titre. Et nous attendons sa venue.
Oui, alors justement, bon, vous êtes champion de France. Après, vous décidez d'aller participer à des championnats du monde, c'est ça? Donc, vous partez sur Las Vegas.
Alors le fait d'avoir été champion de France, la fédération nous proposait de partir à l'étranger dans une compétition internationale. Mm-hmm. La chance. Et
on pouvait pas mieux rêver que Las Vegas. Hein. S'il y avait une compétition de fléchettes où ça doit être royal, c'est Las Vegas. On peut imaginer l'ambiance et puis la fête. Hein.
Ah oui. Ouais.
Ouais. Attends, d'ailleurs, ça se passe comment là-bas?
3 jours de compétition intense.
Oui.
Où il fallait se lever assez tôt le matin. Malgré le décalage horaire et puis voilà le...
Ouais, c'était avec le décalage horaire, oui, c'était assez difficile, mais c'est sympa d'être chez moi.
Oui, ouais. Et puis on peut imaginer hein, le show américain tout autour, hein,
oui.
Parce que chaque sport en Amérique c'est avant tout aussi un show, hein. On peut imaginer tout le cérémonial qu'il y a pu y avoir.
Oui, alors, il y a eu effectivement un cérémonial de présentation des pays représentés dans la compétition.
Avec les hymnes aussi, vous avez eu droit à la Marseillaise
Non, on n'a pas eu droit à la Marseillaise. Par contre, on a eu un porté de drapeau, effectivement. et puis, c'était aussi très, très touchant, puisqu'en fait, on est parti quelques temps après les attentats du 13 novembre.
Voilà, oui.
Et l'ensemble des Américains qu'on a rencontrés se sont montrés très très touchés et ils ont tenu d'ailleurs en tout début de compétition à faire une minute de silence en mémoire des victimes. Mm-hmm. Et donc les fléchettes, c'est non seulement des rencontres humaines, mais aussi, c'est vrai, dans ce contexte-là, des rencontres entre pays, enfin
oui,
l'occasion
sûr.
De découvrir d'autres d'autres manières d'être et puis une certaine solidarité, c'était très chouette.
La passion du même jeu, quoi.
Ouais, tout à fait. Mmh.
Donc vous allez repartir à l'étranger, refaire d'autres compétitions comme ça. Bon, il va déjà falloir redéfendre son titre l'année
prochaine.
Exactement.
Exactement. Donc là, on a fait notre dernier match il y a 2 semaines, donc pour les qualifications au championnat de France. Donc après, sera rendez-vous à partir du 21 juin, il me semble. Ce sera à Nantes pour les championnats de France. Mmh. Et puis, pourquoi pas espérer de récupérer un deuxième titre dans notre catégorie, puis repartir à l'étranger dans une compétition. Ouais.
Mmh. Donc là, c'est la phase un peu de repos. On continue quand même chaque semaine à tirer les fléchettes.
On continue, ouais, un jour, oui. Ouais, c'est souvent, oui, c'est vrai, on a une petite pause là maintenant, mais on va recommencer bientôt.
Mmh.
Pour les doublettes.
Oui,
donc, normalement, moi et Alex et Pauline va joindre notre doublette. Donc
ça veut dire qu'on peut être pratiquement sollicité toute l'année, quoi. Bon, il y a les compétitions par équipe de 4, il y a aussi les doublettes, il y a les compétitions en solo. Ça veut dire que toute l'année, on peut être réquisitionné, mobilisé.
Tous les week-ends.
Par ce sport, si vraiment on le veut.
Oui. Mm-hmm. Il y a les tournois quasiment tous les week-ends, quelque part en France, on peut en trouver.
Mm-hmm. Tout à fait.
Oui, donc c'est. Alors justement, comment on rentre dans la compétition? Comment on arrive à se transcender psychologiquement, à se galvaniser?
Alors je vois Alexandre que tu me regardes.
Ça demande une très 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 grande concentration mentale quand même. C'est aussi une des particularités de votre sport quand même.
On ne l'explique pas. En tout cas, pour le championnat de France en 2014, on ne sait pas trop l'expliquer ce qui s'est réellement passé, le pourquoi. En fait, pourquoi on a réussi à être meilleur que les autres équipes? On n'a pas forcément excellé dans notre discipline, mais on a réussi à être plus soudés que les autres équipes et à pas craquer, tout simplement.
Je crois que c'était vraiment ça, on était tous derrière l'un de l'autre.
C'est-à-dire que vous faites des choses sérieusement sans se prendre au sérieux, donc il n'y a pas d'engueulade, il n'y a rien, et c'est peut-être ça.
Il y avait peut-être
esprit de camaraderie qui ressort peut-être encore plus fort que les autres.
Et la naïveté de la première fois aussi, de pas subir cette pression qu'on a dû subir l'année d'après.
Ça aussi, il faut le gérer, ça aussi. Ouais. Hein, vous dormez bien avant les compétitions, parce que ça peut être un jeu au départ, après on se prend à la compétition fatalement.
Alors, avec les années qui passent, je me rends compte qu'on n'a pas tous la même manière de gérer la pression d'une compétition.
Bien sûr.
Pour ma part, ça va surtout être en compétition que je vais réussir à jouer.
D'accord.
En dehors de la compétition, c'est beaucoup plus un esprit de camaraderie franche. Voilà, on est ensemble, ouais. On passe un bon moment. Par contre, quand on commence à avoir un réel enjeu de compétition, effectivement, il y a quelque chose d'un peu inexplicable. Enfin, quelque chose qui se débranche et qui permet.
Il y a des personnes comme ça qui se transcendent quand il y a la compétition, quoi. C'est-à-dire que l'entraînement c'est difficile et puis quand il y a la compétition, ils se transcendent. Et puis inverse parfois, hein, où on est parfois les champions du monde ou champions du monde des entraînements. Et puis la compétition. C'est sûr. Et physiquement, il y a quand même un minimum de préparation. Bon, le jour qu'on est dans la compétition, il ne faut pas trop boire, il faut rester.
Mais c'est un avantage quand en face, ils ont beaucoup bu.
Ou alors, il y en a qui peuvent être euphoriques, enfin, quand même.
Il faut garder une certaine constance, en fait. Essayer de rester chaud tout au long de la journée. Alors, quand je dis chaud, c'est le bras, mais beaucoup le psychologique, je crois. Le psychologique, ça doit faire 80-90% de la réussite.
Dans votre sport,
il faut rester très, très fort. Dans ta tête, c'est sûr. Bon, l'entraînement, ça nous permet de beaucoup jouer. Ça nous permet de
maintenir des réflexes
Si on lance 500 fléchettes par soir et puis on arrive devant une cible, on est un peu stressé.
Oui, bien sûr.
Ça va aller tout seul.
Et puis il y a des soirs où ça va pas bien, les fléchettes, on les met à côté, on dit mince, et puis le lendemain, je suppose qu'on revient, puis on sait pas pourquoi. Ça passe, tout passe.
Exactement.
On en parle souvent que souvent on a un niveau qui monte et qui baisse. Ça, on est en train de danser et pendant, je sais pas, un mois, on s'entraîne pendant un mois, ça joue bien et puis d'un coup, plus rien. Et puis on commence à jouer mal pendant 2-3 semaines et puis ça recommence et puis ça regrimpe, mais à chaque fois ça regrimpe plus fort. C'est une partie de la psychologie qu'on suit, on dit. Même si on joue pas bien maintenant, ça veut dire que on va devenir plus fort. Il faut juste continuer. Je crois que c'est un peu comme tout dans la vie.
Bien sûr. Très bien. Pauline, vous nous annoncez la page de pub. Vous nous lancez la page de pub. Allez.
Mais bien sûr, mesdames et messieurs, attention tout de suite. Dans un instant, c'est la page de pub.
C'est très bien.
De la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les Salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les Salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h, un buffet dînatoire à volonté. Boissons et soirées nightclub incluses à 45€. Le dimanche à partir de 11h, un brunch avec après-midi dansant et animation pour enfants à 39€, enfants 15€. Et un thé dansant de 15h à 18h avec son buffet gourmand à 15€. Les Salons Léopold, la vallée à Cernay-la-Ville. Réservation et information au 01 34 85 20 02 et sur www.salonleopold.fr.
Nature et Bébati Service, entreprise située à Vieille Église, interviennent dans toute l'Île-de-France et proposent différents services pour tous vos travaux d'intérieur et d'extérieur. Nature Service, spécialiste de vos espaces verts avec ses équipes de paysagistes et élagueurs diplômés. Bébati Service, entreprise tout corps d'État répondra à tous vos travaux de bâtiment. 50% de déduction d'impôts possible sur de nombreuses prestations. Un conseil, un devis gratuit. Contactez Nature et Bébati Service au 01 30 50 06 96 ou sur le www.natureservice.fr.
La Cime Verte et la Gage à Vieille Église vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage. Ferme de la Quaqueterie à Vieille Église, proche de Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE. RVE.
Sapin éteint, les boules tombent et cassent au son des peaux. Les parents dorment indifférents. que les gosses d'en face gâtés pourris sont bien. Il y a mieux que moi, ils dansent, ils chantent, ils me narguent, où sont des roues. Je suis seul sur une terre qui tourne sans moi. Il n'y a pas de soleil dans ma misère, l'orange rouge ne me réchauffe pas. Il n'y a pas de lumière dans mon tunnel, l'orange rouge ne l'allumera pas. Il n'y a plus de mensonges pour le soir, l'orange rouge ne vient pas. Tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde n'est pas
de cette émission Tribune Sport ce matin, on a parlé fléchettes, on va continuer à le faire, mais je vous ai dit, l'actu c'est aussi le Red 28, on est ravis en tout cas d'accueillir quelqu'un qui est un habitué, un fidèle de ce micro, c'est notre ami Patrick Pilorget. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Alors dans quel état d'esprit on se trouve là ce matin, Patrick? Il n'y a pas eu le sommeil, il n'y a pas eu de...
L'état d'esprit, il est bon, c'est-à-dire qu'on a fait une course magnifique, nos 5 courses ont eu lieu, on a donné le dernier départ à la 5e course à 9h, à Bure-sur-Yvette. Ce sont toujours des départs surprises. Ça s'est déroulé depuis samedi, donc hier, à 16h, la première course, l'Ultra Red 28, puis toutes les autres courses que RVE connaît bien, jusqu'au Bure 28, 28 km.
Donc pas de fatigue, ça va, pas de coup de barre? Tout va bien.
On est fatigué parce qu'on a passé une nuit blanche, mais on est certainement moins fatigué que les coureurs qui sont partis hier et qui vont faire plus de 100 km.
Oui, alors on sait qu'une des particularités du Red 28, c'est la nuit. Hein. On l'a vécu, nous, pendant plusieurs années à l'antenne. Patrick, comment ça s'est passé cette nuit? Bon, il n'a pas fait très froid, beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie quand même.
Alors il y a eu un peu d'humidité.
Il y a peu de froid.
Non, il n'a pas fait très froid. Il faisait 5-6 degrés. Et sur la journée, on savait que la météo annonçait un meilleur temps et des éclaircies sur l'après-midi, donc c'est ce qui va se passer. On fera une arrivée sous le soleil à 16h, puisque c'est une heure limite pour les arrivées. Ça s'est très très bien passé. Les coureurs sont évidemment, comme on l'attendait, des anciens de la course, et ceux qui sont en tête sont des habitués de notre podium. Ça n'a pas changé. Même aujourd'hui, un vainqueur de l'année dernière pour le Red 28 a une heure d'avance sur les programmes de course.
Une heure d'avance sur les programmes de course. Bon, il faut qu'il trouve les bonnes balises aussi. Hein.
On ne peut pas donner le classement parce qu'il faut avoir compté les prises de balises et les pénalités.
Voilà, il faut quand même dire que le classement, bon, on l'aura dans quelques jours. Il y a beaucoup d'abandons.
Excuse-moi, le classement, on l'aura à 17h.
Ouh, très bien.
Puisque,
très bien,
une grande nouveauté, on avait commencé l'année dernière, il y a, sur le Red 28, toutes les balises sont prises avec un doigt électronique.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, et une grande partie de celles du semi. Donc les coureurs, tous les coureurs du week-end du Red 28 vont finir ou faire toutes leurs courses avec des doigts électroniques. Ah, mmh. C'est une grande nouveauté. C'est pas économique, mais ça nous permet de gagner une heure sur la remise des classements et de gagner une heure sur le podium. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que les coureurs qui sont arrivés très tôt, à 13h ou à 12h, entre 12h et 13h, 14h, doivent attendre le podium à 18h. Donc ça, c'est un peu long. Alors on offre un repas, on fait une animation, on met de la musique, on essaie de s'amuser ensemble, on fait des photos, on fait des films. Mais ça fait long pour les premiers. Donc on essaie de gagner une heure et demie pour la remise des classements et grâce aux doigts électroniques. Donc ça c'est fait avec les associations de courses d'orientation de la région, évidemment.
Ouais, c'est fabuleux, en tout cas. Donc beaucoup d'abandon au niveau des différentes équipes dans les différentes courses.
Alors là, on n'est pas arrivé parce que il n'est pas midi, il y a encore pas mal de kilomètres à faire. Il y a eu 2-3 abandons qui sont des gens qui se sont blessés avec des tendinites, mais en fait, ce sont toujours des gens, des jeunes, des plus jeunes, qui ont des blessures et qui ont couru sur leurs blessures. Donc, ça se termine mal. Alors, je voulais dire une chose très importante, c'est que cette année, la course est passée à 2 pas de la station, puisqu'on avait une balise au pied de l'antenne.
Oui, c'est vrai.
Alors là, il est bientôt 11h et ils sont déjà passés depuis longtemps.
Et puis, jamais vous n'avez fait un départ aussi rapide de Bure, pour le Bure 28. Ça, c'est une des
Alors, on aime bien les innovations et on a annoncé au moment du briefing, quelques minutes avant l'heure de départ, on leur a annoncé différentes informations, mais on leur a annoncé que le parcours n'était pas au départ de Bure, mais au départ de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et on leur a offert les tickets de métro. Donc, c'est une annonce inattendue. Ouais. C'est un grand secret. Donc, du coup, on a vidé la salle de départ. C'est une salle dans laquelle les coureurs font d'habitude la préparation de leur parcours. On leur donne le document de course juste au départ. Il faut une préparation pendant un quart d'heure, une demi-heure, des fois 3/4 d'heure. Mais là, la salle s'est entièrement vidée en 30 secondes. C'est inattendu, on le refera.
Oui. Et puis l'épreuve aussi du semi-raid qui est partie du Perret en Yvelines, hein. C'est important.
Tout près d'ici, le Perret en Yvelines. Alors c'est une ville qui est connue parce que il y a nos Jacques amis Poligny, de l'Origole avec Jacques Poligny qui organise ses courses là-bas. On est parti de l'ancien stade, c'est-à-dire du stade qui est en ville, qui nous a magnifiquement accueillis. Et j'en profite, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais les gens, les responsables. Madame le maire et la personne responsable des sports qui nous a accueillis magnifiquement dans ce stade. C'était parfait pour notre départ.
Oui, c'est là que se déroulait en général l'arrivée du semi-marathon du Perret quand il y avait effectivement encore le semi-marathon sur le Perret.
Tu parles d'une course du XXe siècle que j'ai faite.
Ouais, c'est ça. voilà. Tiens, on a nos amis des Fléchettes qui avaient une petite suggestion à vous faire, Patrick. Pourquoi pas pour les prochaines années?
Une petite épreuve de Fléchettes de nuit.
Ah, Fléchettes de nuit, ça nous intéresse.
Dans le parcours.
Dans les bois, voilà. Vous êtes d'ici, de Rambouillet, non?
Tous de Rambouillet.
Ils sont champions de France de Fléchettes.
Ça me donne des idées. On a besoin d'idées nouvelles comme ça.
Insérées comme ça dans la cour.
Mais je souhaite qu'il n'y ait pas de futurs coureurs à pied du Raid 28 à l'écoute, parce qu'on veut faire la surprise. Nous, si on fait une épreuve spéciale, parce que ça nous arrive de temps en temps d'avoir des idées comme ça, elle est surprise. Parce qu'après, ils vont s'entraîner, ils vont se préparer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens soient mis dans des conditions de course inattendues. Et tout le long du Raid 28, les prises de balises, le choix du parcours, les choix de terrain, etc., sont à chaque fois des innovations. Le parcours lui-même est secret jusqu'à la seconde du départ. Et la ville de départ n'est donnée que 5 jours avant la course.
Ouais.
Mais les gens reviennent parce que c'est nouveau chaque année. D'ailleurs, on a un coureur que je connais très bien, qui est de Bure-sur-Yvette. Lui, il a une habitude, parce que les coureurs sont des gens un peu maniaques, il ne fait jamais 2 fois la même course. Il a toutes faites, mais jamais 2 fois la même. Mais comme le Raid 28 change de parcours chaque année, il revient chez nous chaque année.
C'est pas mal. Bon, c'est bien. Merci Patrick, bravo à toute l'équipe qui est là-bas sur place. Ça va, ils vont tous bien les bénévoles, ils sont en pleine forme aussi comme vous.
Ils sont en pleine forme, je ne sais pas s'ils sont en pleine forme comme nous, mais ils nous attendent pour que l'on continue les arrivées. Alors si les auditeurs de RVE veulent nous rejoindre à Bure-sur-Yvette, l'arrivée se fait traditionnellement sur le campus de l'université Paris-Saclay, Paris-Sud, et dans le bâtiment 225, qui est juste à l'entrée du côté de Bure. Donc vous pouvez venir, c'est la fête. On est peut-être fatigué, mais nous, la fête, ça n'a pas de prix. On accueillera tout le monde, on fait un grand repas. Aujourd'hui, on va faire manger environ 500 à 600 personnes. Tout ça, c'est préparé par des bénévoles. Mmh. Et bon, on n'a pas pensé à faire des jeux de fléchettes pendant le repas, mais ça pourrait être une bonne idée.
Merci messieurs, merci Patrick. À très bientôt, puis nous, on donnera le classement la semaine prochaine. Hein.
Okay, merci à vous, à bientôt.
Merci en tout cas, c'était très sympa. Avec la vidéo, puis donc les photographes aussi de votre épreuve, on sera dans la cassette. Hein.
Oui, c'était original dire. Parce que ouais. RVE, c'est la première radio ouais. télé.
Oui, oui, absolument.
On n'a jamais oui. fait ça, non?
Non, c'est ce qu'on appelle le multimédia.
Bon, j'en voilà. profite aussi pour lancer un grand appel à la direction de RVE, parce que nous attendons impatiemment qu'on se décide sur un direct, comme on l'avait fait il y a quelques années.
2007,
c'était quelque
2013,
chose d'absolument ouais. magnifique. Mmh. Et bon, cette fois-ci, on essaiera de venir dans le studio, mais c'est un grand souvenir. C'est RVE, c'était la radio du Red 28, ouais. et on a passé toute la nuit avec des personnes qui ont organisé dans le studio des jeux et tout un tas de choses. On souhaite qu'on recommence tout ça.
Voilà. Et puis, sous la neige, hein, on s'en rappelle, c'était quelle édition celle-là.
Ah oui, alors ça, c'est le point le plus difficile pour un organisateur, ouais. c'est faire tomber la neige au moment où les coureurs le veulent.
C'est pas mal, ça sera mot de fin. Merci Patrick, en tout cas, et puis donc, à très bientôt pour. Et puis, bonne fin de Rennes 28.
Merci, on y retourne.
Voilà. Allez, et puis nous, on va continuer avec les fléchettes. Vous avez gagné une médaille, apparemment.
À Las Vegas.
Oui.
Oui, oui, tout à fait. Dans la catégorie individuelle. Mm-hmm. Donc, même principe que pour les championnats de France, hein, il y a plusieurs niveaux. Et donc, dans mon niveau, donc ça s'est terminé vers 3h30 du matin, quand même, hein, avec les retards américains. Et j'ai pris une quatrième place, avec mm-hmm. une petite somme de $400 aussi. Je suis rentrée avec une médaille et quelques billets.
Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut vivre de ce sport, en France ou en Europe, ou même surtout
très bon, il faut gagner, pas un petit titre, mais il faut gagner plusieurs. Et je crois que c'est plus avec les sponsoring.
Oui, c'est après. Ça.
Si on gagne un tournoi, on peut arriver à avoir des sponsors.
Oui.
Et ça peut... beaucoup aidé. Ouais.
Les sponsors, oui, ça fait et comme puis tous les tournois qui ont lieu le week-end, où parfois il y a des sommes d'argent, soit des lots ou soit des remises en jeu des inscriptions. Mm-hmm. Et il semble assez difficile, oui, de pouvoir en vivre. On connaît 2-3 personnes qui tendent vers ça, mais c'est vrai que c'est tous les jours, c'est tous les week-ends, et c'est vraiment...
Oui, oui, oui.
C'est très dur.
Ouais, parce qu'il y a des sports comme la pétanque, par exemple, où quand on fait de la pétanque à très haut niveau, on vit à travers les sponsors, les partenaires.
Ouais.
Donc on peut effectivement imaginer que pour les fléchettes, on ait un petit peu une similitude. Alors moi, j'aimerais savoir d'abord quel est le prix d'une licence et d'une cotisation. Il y a une fédération, c'est une fédération française à part entière, c'est une association, c'est quoi?
Tout à fait, c'est assimilé à une fédération. Chez nous, c'est France...
Phoenix
France Compétition.
C'est ça.
Mm-hmm. Donc on a une cotisation annuelle...
C'était le 28.
Elle est de combien,
de 28 euros par personne.
Ouais, ouais.
Et puis aussi avec une adhésion à une association pour notre opérateur, la personne qui est en charge d'organiser les tournois interbar, qui s'appelle Electronic Amusement. Donc on a à la fois une cotisation et une adhésion donc pour les équipes. Et puis si on souhaite faire les doublettes, une cotisation à nouveau. Si on souhaite faire les individuels...
D'accord, à chaque fois, on recotise.
On paye pour l'organisation de tout ça, en fait, des rencontres. Et puis
c'est
après, du championnat de France, parce que c'est le championnat de France, c'est plus de 250 machines, c'est 2000-2500 joueurs. Mm-hmm. Il y a toute une logistique, toute une organisation qu'il faut, bien évidemment... payer. Et donc nos cotisations et nos adhésions servent à ça.
Les voyages, les déplacements, c'est pris en charge?
Eh bien, pour notre...
Vous donnez un peu d'argent?
Pour Las Vegas, ouais. Oui, c'était pris en charge par la fédération, oui.
Mm-hmm.
Oui. Mm-hmm. Heureusement.
Oui, ouais. Prochaine fois que vous y allez, on y va, tiens. On vous accompagne sur Las Vegas. Oui. Et donc, au niveau du matériel, ça se passe comment? Est-ce que c'est à la charge du pratiquant? Est-ce que quand on fait de la fléchette comme vous, il faut déjà son jeu de fléchette? Si oui, ça se trouve où? Et combien ça coûte?
Alors, effectivement, chaque joueur a un petit peu son jeu favori. Bon, je pense qu'il y a une phase où on va tester un petit peu les différents types de jeux. Il y a beaucoup de configurations qui sont possibles. Il y a des fléchettes très longues ou des fléchettes très courtes. Il y a des intermédiaires en termes de poids aussi. Je crois que le minimum, c'est 16 grammes et le maximum, ça doit être 24.
Je crois que c'est 20 grammes en électronique.
20 grammes. Voilà. Après, bon, c'est un petit peu comme tout. Hein. On va dire que c'est pas la fléchette qui va faire le jeu, mais ouais, effectivement, chaque joueur a sa configuration qui lui va bien. Chacun a un geste très différent aussi. Là, on est trois joueurs autour de cette table. On n'est pas deux à avoir le même geste.
Oui, bien sûr. Mais les fléchettes, donc vous avez votre propre
tout
matériel.
À fait.
Au début,
oui.
Vous allez acheter. Il y a des magasins spécialisés ou dans les commerces de sport, on trouve des fléchettes. Parce que là, c'est pas les fléchettes du dimanche, hein, c'est des fléchettes,
ah, c'est pas les fléchettes
de compétition. Elles sont comment bar, justement ces fléchettes? Elles sont légères, elles sont.
Elles sont belles.
Il faut allier les deux, il faut qu'elles conviennent à notre geste, bien évidemment. Et puis si elles peuvent être jolies aussi, c'est vrai qu'on peut changer.
Elles sont fluo, il y a des couleurs, il y a du noir, il y a des.
Comment on veut. Par exemple, les miennes, moi j'ai une grippe assez gros parce que je l'aime bien, un repère. Donc. Sont un peu avec des petites ailettes, mais Pauline, par contre, ouais, elle joue avec des fléchettes un peu plus longues que les miennes.
Et il y a des longueurs, donc il y a des longueurs, puis le poids aussi, peut-être.
Oui,
non
oui, oui.
Il y a, moi, y a un respect au niveau du poids, on est obligé de ne pas dépasser, peut-être.
Tout à fait.
Oui.
Oui.
Ouais.
Oui.
Et au niveau de l'équipement, est-ce que quand vous êtes en compétition, il y a un équipement, je dirais, requis, suggéré, une tenue, un maillot
Oui. Alors on a des super maillots.
Donc super fléchettes, super maillots.
Exactement. En fait, on doit tous avoir le même dress code. Bon, quand on joue en équipe, on choisit le maillot. Il y a quand même une règle à avoir, c'est le nom de l'équipe derrière.
Ah oui.
Voilà.
Vous devez avoir le nom de l'équipe, obligatoirement.
Oui,
et porter le maillot pour n'importe quel match. Tous les matchs.
On peut se faire disqualifier sinon. Enfin, bon, tout simplement, on n'accède pas au titre. Mm-hmm. Après, pour les compétitions individuelles en championnat de France, c'est l'opérateur qui nous donne des maillots.
D'accord.
Voilà. Bon, si on ne les a pas, bon, on ne peut pas jouer, en tout cas.
Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Et au niveau de l'arbitrage, ça se passe comment? Vous avez des juges arbitres ou c'est vous qui, entre vous, faites votre propre arbitrage? Parce que. Bon, il n'y a pas de contestation, je suppose, parce que
ça
peut arriver, les contestations.
Ça peut arriver. Il me semble, au moins deux arbitres dans la salle lors des championnats de France. Mais je dirais que c'est extrêmement rare d'avoir recours à l'arbitre. Ça peut arriver des tensions entre les joueurs quand, après entre n'importe qui, hein, mais un pied qui dépasse de la ligne. Il y a des contestations qui pourraient être possibles, mais qui, dans les faits, sont très difficiles, en fait.
À combien de mètres faut être de la cible? Il y a une obligation?
Combien? 2m37.
2m30 de la cible.
2m37, je crois. Ça dépend. Parce que chez nous, je crois que c'était
2m40. Ça dépend des fédérations, ça dépend si c'est en fléchette électronique ou traditionnelle.
Oui, oui, oui.
Mais c'est aux alentours de 2m40.
Bon, vous, c'est de l'électronique ou du traditionnel?
Électronique.
Électronique, oui. Ouais. Donc le contour, aussitôt, ça triche pas. Là, il ne peut pas y avoir de...
Exactement. Ouais. Nous, ce qu'on se dit, c'est que la cible a toujours raison.
Ouais, la machine a toujours raison, en effet, vu que c'est une machine électronique qui est sensible, en fait, qui va prendre n'importe quel... dès qu'il y a un impact sur la cible, ça compte. Donc c'est la machine qui fait foi, c'est ce qui est affiché sur la machine, en tout cas. Donc il n'y a pas de contestation possible.
Mais, Bon, préparation physique aussi, on fait attention. Est-ce que le poids a de l'importance?
Le poids.
Oui, le poids.
Le poids
après,
du joueur
après, ouais, les, ouais, après les fêtes.
Est-ce que ça peut avoir d'importance? Est-ce que ça peut avoir du rendement dans votre sport?
Non, il faut se sentir à l'aise. Je pense qu'il faut être...
C'est avant tout psychologique.
C'est avant tout du mental, du psychologique. Ouais. Et
faut bien travailler sa geste.
Oui, ça c'est sûr. Il faut se muscler quand même le dos. Donc il y a peut-être une petite...
C'est vrai, d'être debout à un tournoi pendant 3 jours, quand on est debout pendant les 3 jours en train de lancer les fléchettes. Ouais,
le pied,
mal au bras parfois, au cou. Moi j'avais pas mal de problèmes de coudes.
Les tendinites.
Ouais, les tendinites de coudes,
Bien sûr. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine quand on prépare une grande compétition? Vous parliez de 5 heures tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est...
Ça dépend. La première année, je crois que j'ai surfé le truc. J'ai fait environ 5 heures pendant 2 mois.
5 heures pendant 2 mois.
Et c'était trop. Je me suis blessé.
Donc c'est tous les soirs.
Ouais, c'était trop. La dernière fois, j'ai fait pendant un mois. peut-être oui, entre les 3 et 5 heures. J'ai commencé vers les 3 heures, et puis petit à petit, ça est devenu 4, et puis 5, et puis voilà, les tournois est arrivé, et puis voilà. Et
alors,
je me suis senti plus à l'aise.
Est-ce qu'il y a aussi des phénomènes où, des fois, on se dit, j'ai pas envie d'y aller ce soir, j'ai pas envie d'aller jouer.
Oui, bien sûr.
Il faut surtout pas y aller dans ces cas-là. Ou alors, s'il faut se faire violence.
On peut avoir de bonnes surprises. Ouais. Je dirais que effectivement, il y a des soirs où on n'a pas forcément envie d'y aller, mais le fait de se retrouver ensemble, de rencontrer une équipe, ça reste toujours un moment convivial. Donc, une fois qu'on y est, en général, puis encore une fois, on a une très bonne entente entre nous, donc on arrive à se remotiver, à se soutenir.
Oui, on se resurpasse quoi quand on arrive comme ça devant donc la cime, même si on se sent pas très bien pendant les entraînements.
Ouais. C'est pour ça, on a des remplaçants aussi, si par hasard. On a quelqu'un qui va pas très bien, on peut en remplacer. Comme on a les cinq, il y a aussi notre joueur Charles Saint et notre Pierre Maillard.
Ouais. Et il n'y a jamais d'état d'âme du remplaçant, jamais. Ça arrive?
Oui. Disons que on peut penser qu'il va y en avoir.
Oui.
Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y en ait déjà eu. Après.
Il accepte très bien sa position, puis s'enroule, quoi.
Il peut y avoir par contre une culpabilité de celui qui. Il va prendre la place de celui qui sort.
C'est ça qu'il faut gérer. Après, c'est au capitaine
de
gérer ça.
Tout à fait.
Très bien. Allez, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale. N'oubliez pas qu'on a un nouveau site internet que vous pourrez naturellement réécouter cette émission dans le courant de la semaine dans la rubrique podcast. Allez, la pub, la musique. Et ensuite, on arrive déjà à la fin de cette émission bien remplie entre les fléchettes et puis un petit point sur le Red 28.
Le restaurant Amaris à Rambouillet a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi midi et du lundi au jeudi soir pour vous proposer une nouvelle carte avec ses entrées, son buffet d'hors-d'œuvre à volonté, ses plats et un large choix de desserts chauds ou froids. Le restaurant Amaris, c'est une cuisine maison composée de produits frais. Découvrez également le menu Amaris à 25€ et le menu Express à 15,50€, servi uniquement le midi et hors jour férié. Alors, pour un repas professionnel ou un moment de convivialité, entre amis ou en famille, une seule adresse. Restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 34 rue de la Mairie, Orsemont.
International Auto, 284 RN10 à Coignères, achète comptant et immédiatement votre véhicule de moins de 10 ans avec ou sans contrôle technique. Intéressé pour vendre rapidement votre voiture? Une seule adresse. International Auto, 284 RN10 à Coignères. Téléphone 0607 65 34 40. 0607 65 34 40.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils sont refermés derrière moi, ils ont eu peur alors que je recule, je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? C'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens, je les entends rire comme je...
Voilà, on va donc simplement vous demander, d'abord chacun a son style dans les fléchettes, hein. Chacun a sa particularité. On peut le changer, on peut le travailler, ou alors finalement, non, on le garde. Oui,
un peu. Je crois que c'est mieux juste à jouer à la... à votre propre façon, quand vous êtes à l'aise. Mm-hmm. Moi, je crois que j'ai un geste assez sec, assez fort, mais je connais les autres joueurs.
Il ne se modifie pas au fil du temps avec les entraînements, quoi. Ouais. Il ne se modifie pas au fil du temps avec les entraînements.
Je crois que ça change petit à petit. Peut-être au début, on penche vers l'avant un petit peu plus, et petit à petit, on recule, parce que pencher beaucoup, ça fait mal. Pied, bon, donc, voilà.
On parlait du matériel tout à l'heure. Ça coûte combien, finalement, j'allais dire, un jeu de fléchettes?
C'est ça, c'est un jeu de fléchettes. Ouais. Donc, on achète par trois, c'est trois barillets. Et ça va de 15-20 euros jusqu'à 150 euros, un jeu de fléchettes.
Donc ça reste encore très abordable.
Très abordable.
Et on le garde pendant plusieurs années.
Alors le jeu de fléchettes en lui-même, oui, ce qu'on va changer, ça va être les pointes qui tapent sur la cible. Mmh, donc ça se casse, ça se déforme, donc on les change assez régulièrement. Les ailettes qui peuvent être en plastique ou en tissu. Mmh. Donc voilà, c'est du matériel parfois qui se déforme, qui casse. C'est ces choses-là qu'on va racheter. Et puis parfois, on va racheter un jeu de fléchettes pour changer, parce que on est en plein changement de geste, ou on est en train de travailler quelque chose, et puis nos fléchettes ne nous conviennent plus, donc ça nous arrive parfois de changer de jeu.
Oui, ça m'est arrivé, oui, justement, j'ai joué avec les fléchettes.
Et je suppose qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans le matériel, quoi.
Ça peut arriver, oui.
Merci en tout cas pour votre venue. Très brièvement, un petit merci pour vos sponsors.
Merci à notre sponsor principal qui est le Polo Pub, donc voilà, qui nous accueille assez régulièrement, et puis aux personnes qui nous ont financé aussi le championnat de France l'année dernière, donc
Fresh France,
oui, c'est oui.
Et puis le CE d'Anières, le CFE.
Très bien, merci, puis on passera vous voir. Merci à Jean-Pierre d'avoir été ce matin donc aux manettes, et puis écoutez, restez-nous fidèles, on vous laisse avec la suite des programmes sur l'antenne Zerveux. Bon dimanche à toutes et à tous, salut.
Sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnut.